Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous sommes le 17 février et justement, nous allons faire un épisode sur deux événements qui marquent l'actualité, à savoir la vulnérabilité dans Glibc et un hôpital à Hollywood qui s'est vu chiffrer la totalité ou une grande partie de ses données. Pour discuter de ces sujets, les contributeurs No Limites Sécu sont Hervé Schauer.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Sébastien Juria.
Bonjour.
Vladimir Collat.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Huloa. Alors, Nicolas, cette vulnérabilité sur la Glibc, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, bon, alors c'est une vulnérabilité qui est CVE 2015-7547. Donc, elle n'a pas de joli nom, pas de logo, pas de site web dédié, pas de musique, pas de goodies. Et donc, c'est une vulnérabilité de Stack Overflow assez basique. En gros, il y a une fonction dans la Glibc qui s'appelle getAddressInfo, qui permet de faire une résolution DNS sur une adresse IP. Et en fait, quand la réponse DNS fait plus de 2048 octets, la Glibc alloue un buffer dans le heap, parce que le buffer préalloué sur le stack n'est pas assez grand. Mais sous certaines conditions, en fait, il va quand même copier les données sur le stack, plutôt que de les mettre dans le nouveau buffer sur le heap. Et donc, on se retrouve avec un Stack Overflow assez classique.
Alors, est-ce que tu peux essayer de vulgariser ça ?
Bah, globalement, il y a une zone préallouée de 2048 octets. Donc, la plupart des réponses sont copiées dedans. Par contre, si jamais il y a une réponse plus grosse, il alloue une nouvelle zone plus grande. Mais le problème, c'est qu'il ne copie pas la réponse dans la nouvelle zone, mais dans l'ancienne, pour faire simple. Et donc, à partir de là, si ta réponse fait plus de 2048, ça rentre pas dans une zone de 2048 octets.
Et donc, ça conduit à quoi ?
Alors, il y a une preuve de concept qui existe sur GitHub qui permet de déclencher la faille. Et en fait, ça fait crasher ton application. Tu peux avoir des valeurs intéressantes, on va dire, dans les différents registres. Par contre, il n'y a pas de preuve de concept complète qui permet directement de prendre la main sur le système. Parce que les gens qui ont travaillé sur la faille ont décidé de ne pas publier au-delà de la preuve de concept.
Mais en fait, ça fait un débordement dans la pile, c'est ça ?
Oui.
Donc tu pourrais pointer sur ton propre code ?
Oui, mais après, il y a plein de complications, parce qu'aujourd'hui, sur un système moderne, la pile n'est pas exécutable, il y a de la randomisation, donc tu ne peux pas forcément retrouver facilement l'adresse de ton code en mémoire, etc.
Ouais, après, mais d'un autre côté, contourner genre la randomisation de la mémoire à SLR, les choses comme ça, c'est pas non plus hyper compliqué. T'as quand même beaucoup de codes existants qui te permettent de le faire.
Bah là, t'es en remote complet, hein, puisque tu exploites en fait un système en lui envoyant une réponse DNS.
Oui, t'es obligé de chaîner. Tu dois chaîner plusieurs vulnes. Si t'en as une autre qui te permet d'avoir des informations sur la mémoire, tu peux l'utiliser aussi.
Oui, mais là, on est dans un cas où, par exemple, tu vas exploiter du SSH. Donc, tu pars du principe que t'as aucune autre faille connue dans le système, même pas un infolic de base. Et quand tu vas te connecter au serveur SSH, en fait, il va faire une résolution sur ton adresse IP. Et si tu as le contrôle à ce moment-là du serveur DNS, soit parce que tu es sur le lien local, soit parce que tu contrôles le domaine, tu peux envoyer la mauvaise réponse.
Ouais, en plus, c'est de l'UDP, donc ça spoof facilement. Ça, éventuellement, tu peux envoyer une réponse parce que tu sais que justement, il va y avoir une requête.
Alors, la faille est présente dans une fonction qui est appelée par plusieurs chemins. Donc, elle est présente effectivement aussi bien sur le traitement des paquets UDP que sur le traitement des paquets TCP, aussi bien en IPv4 qu'en IPv6. Par contre, le chemin d'exécution n'est pas strictement identique suivant la réponse que tu envoies. Donc après, est-ce que c'est exploitable dans toutes les conditions ou est-ce qu'il y a un chemin qui est plus facile qu'un autre ? Ça, je t'avoue que j'en sais rien.
Mais en gros, en étudiant un peu le code de la cible, tu prends Bind, qui est open source, en étudiant un peu, je pense que tu peux, sans grande difficulté, obtenir un code exécutable.
Si tu te focalises sur une version précise de la librairie, plus une application qui fait appel à cette librairie, plus un système d'exploitation de données, tu peux très facilement... très facilement... Disons, un professionnel du domaine pourra facilement produire un code d'exploitation fonctionnel. Après, est-ce que c'est wormable ? Est-ce que tu peux attaquer, par exemple, tous les systèmes basés sur Debian d'un seul coup? Probablement pas.
Bon, en tout cas, facilement, tu fais du déni de service. Avec un petit peu plus de travail, tu peux arriver à une exécution de code.
On peut dire ça.
Mais ce qui est intéressant, c'est que la faille est dans une bibliothèque, c'est-à-dire elle n'est pas dans un logiciel en particulier, et donc, a priori, elle devrait être exploitable de manière plus large que simplement les interrogations DNS, non ?
Oui, oui. Alors, j'ai repris une liste que j'avais essayé de faire quand la faille Ghost était sortie, mais des infos que j'ai, alors je peux me tromper, mais en gros, ce qui est vulnérable, alors la liste va être un peu longue, mais Walix, Firewall Checkpoint, Palo Alto, Fortinet, Proxy Bluecoat, Proxy Ironport, la plupart des logiciels Cisco, un certain nombre d'équipements, Nexus et iOS XE, Debian, Ubuntu, Red Hat, CentOS, Lacware, Apple OS X, après des produits EMC, beaucoup, et peut-être OpenSSL, et puis encore plein d'autres produits.
Ouais, t'es sûr de ta liste, parce que Apple, ils n'utilisent pas la glibc, justement.
En tout cas, ils étaient vulnérables à Ghost.
Ouais, mais quels composants étaient vulnérables?
Il faudrait que je retrouve ce que j'avais noté, là.
Parce que en fait, il y a quand même le monde de la libc est très compliqué. Parce que ouais. La glibc, c'est la GNU libc, mais déjà il y a eu un fork avec glibc, parce que le mainteneur de la libc, je ne sais pas si on peut citer son nom, mais parce qu'on va en dire du mal. Mais donc il y a déjà eu un fork de la libc. Ensuite, il y a des versions de libc embarquées, type Diet libc, UC libc, etc., qui sont utilisées dans les routeurs. Donc quand tu lis sur Internet, c'est la fin de l'Internet des objets. La plupart utilisent une libc qui n'est pas la GNU libc pour des raisons d'empreinte mémoire et de toolchain fournie par les fabricants de matériel embarqué. Donc non, c'est pas la fin d'Internet. Et puis basé sur la librairie BSD. Donc par exemple Android avec sa librairie Bionic est un fork en fait de la libc de FreeBSD. Donc c'est pas du tout la même code base.
Non, mais le problème, tu vois, c'est quand tu as ce genre de vulnérabilité qui sort, tous les éditeurs communiquent pas forcément, ce qui fait que t'es pas sûr de savoir rapidement si ton système d'information est impacté ou pas. Donc t'es obligé d'essayer de galérer pour voir si, de rechercher toi-même voir si t'es impacté ou pas.
Et d'où l'avantage de la preuve de concept dispo sur GitHub qui permet de cracher ton système facilement.
Là, tu es sûr que ça marche ou pas, enfin.
Et donc, cette preuve de concept, en fait, qu'est-ce qu'elle fait exactement?
Elle renvoie une réponse malveillante de telle sorte que, enfin, ça va remplir tous tes registres avec 0x42, je crois, ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, la quasi-totalité des applis crash dans ce cas-là.
Et donc, ça s'exécute sur la machine vulnérable ou c'est pareil, c'est quelque chose que tu peux tester à distance, on va dire?
Ah non, tu peux le tester à distance. Par contre, il faut quand même que tu puisses envoyer des réponses DNS.
Enfin, il faut surtout que tu puisses après rebooter ton équipement. Hein.
Oui, il faut le tester en laboratoire.
Oui, tu fais pas ça sur ta prod.
C'est quand même marrant cette vulnérabilité, parce que moi, ce que j'ai lu, c'est qu'elle était là depuis 2008, quelque chose comme ça, et qu'il y avait eu une remontée à l'équipe de la glibc il y a plus de 6 mois, quoi, quelque chose comme ça, en juillet ou en août 2015. Ça fait peut-être un peu beaucoup, non?
Ouais, c'est ça, en juillet, oui. Ouais.
Ouais.
Bah, le CVE, effectivement, un CVE-2015. Mais après, il faut voir que ce genre de faille, ça demande une coordination. Et en l'occurrence, c'est les gens de Red Hat qui, au départ, donc Florian Weimer, qui maintient la libc impactée. Et c'est lui qui a, probablement lui qui a géré la coordination avec tous les vendeurs. Parce que corriger la faille, c'est un one-liner. Par contre, s'assurer que tous les gens qui ont besoin de savoir savent et que par contre, les gens qui n'ont pas besoin de savoir ne savent pas, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça peut prendre 6 mois. Bon, par contre, c'est clair qu'il y a quand même un paquet d'appliances basées sur Linux qui sont dans la longue taille d'Internet et qui ne seront jamais patchées. Quoi. Ou alors patchées d'ici plusieurs mois.
Oui, parce que le temps que le patch soit diffusé à la distribution, que l'éditeur qui fait son appliance reprenne le patch, l'intègre, etc., ça peut être parfois très rapide, mais parfois très très long. Cisco, je crois, avec cette partie, ces équipements IronPort avaient eu des problèmes comme ça, et pendant une ou deux années, je crois, on en avait parlé dans la revue d'actualité de l'OSIR, avaient laissé ces équipements vulnérables à des exécutions de code parce qu'ils n'avaient juste pas mis à jour ou oublié une mise à jour. Alors, je crois que Johan, tu posais la question de ce qu'il fallait faire.
Oui.
Alors moi, je vais plutôt te dire ce qu'il ne faut pas faire, parce que j'ai vu ça ce matin chez un client qui, en panique, a décidé de bloquer toutes les requêtes DNS qui faisaient plus de 2500 octets. Et alors le problème, c'est que moi, je les ai vite arrêtés en disant...
Les requêtes ou les réponses ?
Les réponses, oui. Vite de se calmer, parce que le problème, c'est qu'il fallait un petit peu regarder ce que fonctionnellement faisait leur DNS. Bon, eux ne faisaient pas de DNS sec, mais si tu fais du DNS sec, tu as quand même de fortes chances d'avoir des réponses supérieures à 2500 octets. Tu as aussi des fonctionnalités type SPF, donc pour faire de l'anti-spam, avec des enregistrements TXT qui parfois peuvent être particulièrement longs. Et dans le cas que j'ai eu ce matin, en fait, le client utilisait du DKIM, c'est-à-dire encore une autre solution anti-spam, où par contre, là, dans tes enregistrements DNS, dans tes réponses, tu as des clés qui te permettent de faire la vérification de la signature des mails. Donc là, potentiellement, ça aurait pu lui couper cette fonctionnalité, qui n'était pas gravissime, mais quand même. Donc il faut quand même un petit peu réfléchir et pas se précipiter sur une solution qui peut paraître efficace.
D'accord, donc ça c'est une fausse bonne idée.
Et ça dépend des contextes. Ça peut être une bonne idée dans un certain contexte, mais voilà. Et puis sinon, comme tu le dis, la bonne idée, la bonne solution, c'est de mettre un jour quand on dispose du patch.
Ouais, et de rebooter, parce que derrière, si tes applications sont compilées statiquement, bon, tu peux pas savoir. Et si tes applications sont compilées dynamiquement, il faut quand même que tu redémarres le process. Donc que tu redémarres ton SSH ou des choses comme ça. Alors quand tu es dans une appliance où tu as un gros binaire hardcodé et tout tourne en route, en gros tu es obligé de rebooter l'appliance. Donc c'est pas aussi trivial que ça en a l'air, quoi.
Et puis surtout, tu n'es pas sûr de disposer du correctif.
À partir du moment où tu peux tester, quand même, tu as une bonne assurance sur le fait que ça plante ou pas.
Ouais, mais en gros, la question, c'est surtout, dans le cas où tu es vulnérable, c'est-à-dire que tu as testé le code d'exploitation, mais tu n'as pas de correctif, qu'est-ce que tu fais ?
Bah, tu changes de matériel. Mais non, mais si tout ton matériel est vulnérable et que tu sais qu'il y a des gens qui te veulent du mal, bah, ils vont faire planter ton réseau.
Oui, il y a des chances. Ouais.
Accessoirement, il y a une faille qui n'a aucun rapport avec le sujet, mais qui est sortie aussi cette semaine et qui concerne en fait le support IKE dans Cisco. Et c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une faille dans le réassemblage de paquets, surprise, qui fait en sorte que n'importe qui peut parler avec une passerelle VPN Cisco peut prendre la main sur l'équipement. Et en fait, cette faille a été publiée sur le blog de Exodus Intelligence, qui est un broker de 0-day semi-louche bien connu. Et ensuite, ils ont retiré leur blog post. Bon, évidemment, il en existait des centaines de copies sur archive.org et dans le cache de Google. Et le blog post décrit très précisément comment transformer la faille en exploitation à distance. Donc, à partir de là, c'est pareil, quoi. Si tu as un équipement vulnérable à ça, si ta tête de pont VPN est vulnérable à une faille qui permet de prendre la main à distance, ou tu sais que des gens qui vendent des failles entre 100 000 et 500 000 dollars ont travaillé dessus et disposent d'une preuve de concept fonctionnel, qu'est-ce que tu fais, quoi?
C'est presque même plus grave, parce que là, c'était de l'exécution de code sur... je crois que les firewalls Cisco ASA étaient impactés. Donc là, tu te retrouves quand même avec de l'exécution de code sur un firewall qui est censé être souvent en frontal de l'Internet. Là, c'est vraiment critique, hein. Et en plus, sur du Cisco, autant tu peux te dire que sur un Linux, supposons qu'un process bind soit vulnérable, avec de la chance, avec de la SLR, etc., tu peux être protégé, on peut éventuellement juste te planter. Le problème d'un firewall Cisco ASA, c'est que en termes de protection de mémoire et protection du système, il n'y a pas grand-chose. Hein.
Non, mais il faut quand même que ton port 500, UDP 500, soit ouvert sur Internet, a priori. Enfin, si ton firewall, il fait juste firewall, mais qu'il fait pas VPN, normalement, il reçoit pas de paquet IKE, mais bon.
Oui, effectivement, c'est uniquement s'il sert également de VPN, oui.
Enfin, donc, tout ça pour dire qu'on en revient toujours au même problème. Quand t'as une faille conceptuelle dans un composant de base de l'Internet, et que t'as aucune maîtrise du logiciel, des chaînes de compilation et autres, de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire.
Ou débrancher Internet.
En profondeur.
harceler ton avant-vente au téléphone pour avoir un correctif.
Ouais, il faudrait aussi qu'il y ait des gens qui fassent une analyse de code un petit peu plus poussée sur des composants aussi répandus que les principales bibliothèques.
Bah, ça, c'est intéressant, parce que Qualys avait sorti une faille dans la libc il n'y a pas longtemps, justement. Une faille à peu près de même nature qui était exploitable via Exim, il me semble.
Ah, Ghost. Ghost.
C'était Ghost.
L'année dernière, oui.
Et donc, ça veut dire qu'ils avaient regardé le code et qu'ils n'avaient pas trouvé cette faille. Donc, non seulement tu pourrais dire c'est de l'open source, donc tout le monde regarde, donc on trouve les failles. Bon, a priori, c'est pas le cas, puisque la faille, selon l'histoire publiée sur le blog, en tout cas, a été découverte par accident par quelqu'un qui avait un nom DNS trop long. Ensuite, non seulement il y a le hasard qui fait que tu peux découvrir la faille, mais là, en plus, spécifiquement, tu sais que des gens ont regardé parce que des gens ont déjà trouvé des failles dans ce composant et s'y sont intéressés par le passé. Et malgré ça, ils ont quand même raté cette faille.
Ouais, mais on va y revenir encore à l'histoire des bugs qui sont sortis dans OpenSSL tant qu'on y est. Il y a bien des gens qui la regardent, cette OpenSSL. Il va encore en avoir qui vont sortir, c'est sûr.
Ah non, moi j'ai pas regardé, hein, c'est promis.
Mais on parle pas de toi, on a dit des gens, Hervé.
Mais oui, mais on croit toujours que c'est le voisin qui va faire le travail.
Ah, mais au final, t'as bien un certain nombre de personnes qui, je dirais...
Et il ne faut compter que sur tes propres forces.
Ah, mais les gens qui certifient les produits, ils regardent un minimum les codes.
Non, mais la GLIBC, elle n'est pas certifiée.
Mais elle est inclue dans des produits qui sont qualifiés et certifiés.
Ah,
on va pas faire le procès de la certification, parce que là, il y aurait beaucoup à en dire. Hein.
Ok, on a fait le tour sur cette vulnérabilité. Bon, eh bien, on va passer au sujet suivant, qui est donc le chiffrement des données d'un hôpital à Hollywood. Vlad, tu peux nous en dire plus?
Ça va être rapide.
Encore un cryptolocker qui a sévi.
Oui, voilà, c'est ça, sauf que si on prend le cas des cryptolockers, souvent c'est de l'envoi massif d'emails pour piéger les gens, enfin que ce soit entreprise ou particulier, mais c'est pas, ce n'est pas ciblé. Alors que là, apparemment, c'était vraiment ciblé. Donc toutes les données, enfin des données de plusieurs centaines, voire milliers de patients ont été chiffrées. Mais surtout, il y a une rançon qui est demandée et qui n'est pas comme les rançons classiques de genre 2 ou 3 bitcoins. C'est-à-dire 600 voire 1000 euros, là c'est plutôt 3 millions de dollars. Quoi.
Alors il y a déjà eu des cas en France et c'est public puisque ça a été cité dans au moins un des discours du directeur précédent de la NSSI. Donc il y a des gens qui ont été ciblés sur toute leur infrastructure en France de la même manière. Donc c'est des choses qui arrivent régulièrement et pas qu'aux hôpitaux américains.
Mais pour du rançonnage?
Oui.
Il y avait le groupe de pirates très connu, enfin très connu, Rex Mundi, c'est ça, qui volait systématiquement les données et qui rançonnait les gens.
Ah mais là c'est différent.
Pas les données.
C'est différent. Là, c'est du Rex Mundi, c'est du vol de données. C'est pas un cryptolocker.
Oui, enfin le principe est pareil, entre chiffrer tes données ou les sortir. Je veux dire, tu chiffres les données quand il y en a trop et que la bande passante te permet pas de les sortir. Mais la finalité, le mode opératoire est le même.
Non. Là, l'idée, en fait, pour les attaquants, et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un cap qui a été franchi, l'idée, en fait, pour les attaquants, c'est de rendre l'hôpital complètement dysfonctionnant et leur demander une rançon, alors que ce qu'on a vu précédemment, c'est du rançonnage pour de la non-divulgation.
Oui, mais imagine, t'es dans un hôpital, t'as des scans IRM, des machins qui font des centaines de terras. De toute façon, tu peux pas voler les données. Enfin, tu vois, ils ont une pauvre ligne ADSL. Donc, si tu veux les attaquer, t'envoies un cryptolocker, tu chiffres les fichiers, et comme ça, tu récupères l'argent.
Là, ce que je pense que veulent les attaquants, c'est la rançon. Et donc, voler les données, ça, en fait, les données, ils s'en fichent. Ça, je pense pas que ça a de l'intérêt pour eux. Ce qu'ils veulent, c'est obtenir le paiement de la rançon. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un cap aussi. Parce que ils s'attaquent à un hôpital, tout en sachant justement que le risque, ben, il est quand même humain, et donc ça peut-être augmente les chances pour eux d'avoir d'obtenir la rançon. Donc non.
Et puis en même temps, il n'y a pas besoin de chiffrer tous les fichiers. Il suffit juste de chiffrer des éléments un petit peu critiques dans le système d'information, et ça peut suffire à bloquer l'hôpital. Hein.
Tout à fait. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'on n'ait pas vu ça plus tôt.
Oui, mais je pense qu'il y a, il y a aussi un risque de nature différente. Dès l'instant que tu fais une attaque de type CryptoDocker sur une institution où tu sais parfaitement que ça va mettre en péril la vie des gens, eh bien, tu fais face à du pénal qui n'est pas du tout de la même nature que le vol de données. Tu fais face à du pénal qui n'est pas du tout de la même nature que d'avoir chiffré une application de gestion dont l'arrêt n'a pas les mêmes conséquences. Là, tu vas être potentiellement inculpé pour avoir voulu tuer des gens. Donc,
tout à fait.
Moi, je trouve assez logique que ça soit moins arrivé jusqu'à maintenant, tout simplement parce que les attaquants, faut quand même qu'ils récupèrent la rançon, et ils jouent, ils risquent beaucoup plus gros.
Ouais, mais enfin, je pense que les attaquants s'en foutent totalement du risque. Si les mecs sont dans des pays de l'Est, protégés par leur État, qu'est-ce que tu veux qu'ils en aient à foutre d'avoir du pénal ou aux États-Unis je suis pas sûr que ce soit vraiment. Enfin, ça les inquiète plus que ça. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que surtout, tu as beaucoup, comme je disais tout à l'heure, beaucoup d'attaques non ciblées. Et que là, effectivement, ce coup-ci, c'est ciblé. Donc, la rançon est à la hauteur. De la cible.
Non, on ne sait pas. On sait pas si c'est ciblé là, parce que si ça se trouve, ils ont pris cet hôpital parce que ils ont réussi à entrer et donc ils ont peut-être pris l'hôpital qui était le plus ouvert, tout simplement.
Ouais, oui, mais il y a quand même une notion.
3 millions d'euros ou de dollars.
Plus qu'une notion de ciblage, il y a une notion quand même, je pense, d'opération. Tu vois, alors pour moi, un scénario probable, hein, c'est une première compromission. Qui a permis par un mail piégé, le truc classique, qui permet un mouvement latéral, les attaquants qui neutralisent le système de backup ou bien qui chiffrent les backups parce qu'ils sont en ligne et puis qui chiffrent la totalité des données. Et là, donc ah ben, ça me fait penser beaucoup plus à une opération, tu vois, qui a été sophistiquée, qui a été menée plutôt que. Plutôt qu'un cryptolocker classique, on va dire, qui va impacter un petit peu au hasard une entreprise ou une autre.
Est-ce qu'il y a des éléments qui étayent la thèse de l'opération ciblée?
Parce que, en dehors de la rançon?
Parce que les cryptolockers, il y en a eu plein. Enfin, je veux dire, la DGAC a été impactée, il y a des départements de police aux États-Unis qui ont été impactés, il y a des shérifs qui ont dû payer des rançons pour récupérer leur base de suspects.
Oui, mais c'était des rançons qui étaient des rançons classiques, on va dire.
Ouais, toujours de 1 ou 2 bitcoins.
La DGAC, c'est public ?
Oh, tout le monde en a parlé, oui.
Ah oui, d'accord, c'est bon alors.
Non, mais enfin, le fait est que jusqu'à présent, la plupart des rançons n'étaient pas liées à l'entreprise. C'est-à-dire que j'ai eu un client récemment qui s'est pris un cryptolocker. Si, bon, l'impact était quand même limité, en plus il y avait des backups, donc ça allait. Mais si les criminels. Ça avait su que le client était aussi important qu'il l'était, au lieu de demander c'était 1 ou 2 bitcoins, ils auraient demandé des centaines de bitcoins. Donc, jusqu'à présent, les attaques étaient pas trop ciblées dans le sens où c'est plutôt la rançon n'était pas adaptée aux capacités de l'entreprise. Et là, c'est vrai que là, ça change, quoi. C'est plus de 3 millions de dollars pour un hôpital, ça commence à être conséquent.
Et c'est.
Alors, c'est un hôpital privé qui appartiendrait à un groupe sud-coréen.
C'est donc la Corée du Nord, alors.
Bah, je sais pas, hein, c'est ce que je lis. Hein, il a été vendu en 2004 à CHA Medical Group, une compagnie, enfin, une boîte de Corée du Sud pour 69 millions de dollars. C'est ce qui en sort. Alors après, il y a peut-être des gens importants hein, qui sont hospitalisés là-dedans, qui a été ciblé plus qu'un autre, quoi. Je sais pas.
Donc, il est fort probable, hélas, que ce genre de choses soit de nouveau réalisé. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs?
Bah, ne vous faites pas prendre par les cryptolockers.
Tombez pas malade.
Déjà des backups.
Des backups,
ça c'est important, et des backups enfin
offline.
Ah bah oui, forcément
offline. Tester régulièrement aussi les procédures de restauration, ça c'est
ouais,
un point
important. Ouais.
Je pense que c'est super important parce que bien souvent on fait des backups, mais quand on fait une restauration, bien ça ne fonctionne pas. On sait bien tous que le backup fonctionne toujours.
C'est vrai.
Et aussi avoir des sauvegardes récentes, parce que si tu fais un backup mensuel, tu te rends compte qu'en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est les fichiers sur lesquels ils ont travaillé les deux derniers jours. En fait, quasiment tout ce qui a plus d'un mois, tu pourrais te jeter. Enfin, sauf dans certains domaines où tu dois faire l'archivage pour des raisons légales, mais un mail de plus d'un mois, à part pour te couvrir les fesses, sinon, ça sert pas à grand chose.
Non, mais tu fais des backups, c'est très utile pour savoir ce que tu as écrit aux gens.
Non, mais toi, ta base, elle devrait être déclarée à la CNIL, donc t'es hors catégorie, Hervé.
Non, mais tu fais des incrémentales toutes les nuits, par exemple.
En tout cas, et tester aussi régulièrement que la restauration est possible.
Oui, ça, c'est super important.
Mais je crois vraiment que le point essentiel, alors peut-être pas si c'est une vraie intrusion ciblée, mais pour l'instant, rien ne permet de l'affirmer. Par contre, dans 99% des cas, effectivement, c'est juste une pauvre macro Word qui va, via un document reçu par email, qui va déclencher
absolument
le scénario.
Absolument. Et donc, par conséquent, là, il y a deux choses, hein. Sensibilisation des utilisateurs. Attention, quand vous recevez un mail, c'est potentiellement une menace. Un petit peu comme quand on traverse une route, eh bien, on est vigilant. Là, c'est pareil. Quand on reçoit un mail avec une pièce jointe ou avec un lien, avant de double-cliquer, avant d'ouvrir la pièce jointe, avant de cliquer sur le lien, on est vigilant parce que on sait que c'est une menace potentielle.
Moi, je n'adhère pas à ça. Je pense que les gens doivent pouvoir cliquer sur n'importe quoi et rester en sécurité.
Oui, alors ça c'est un deuxième point parce que je pense qu'effectivement la sensibilisation, je pense effectivement qu'il y a des solutions techniques comme le sandboxing qui permettent aussi de limiter les risques. Mais la sensibilisation, c'est, je pense, un point clé.
C'est également bien, mais pas suffisant.
Et si l'utilisateur dispose d'une messagerie d'un côté sur un Windows 8 avec Exchange et de l'autre côté sur un iPad, est-ce que les messages avec des attachements étranges, c'est moins risqué de les lire sur l'iPad ?
Bah, c'est infiniment moins risqué de les ouvrir sur l'iPad.
Donc c'est une recommandation que nous pouvons faire à nos auditeurs.
Bah, oui, mais dans ce cas-là, tu peux aussi dire, alors je vais faire de la publicité pour l'employeur de Nicolas, mais même si je suis contre cette solution, mais effectivement, tu dis aux personnes d'avoir un mail Gmail et d'avoir Google Doc, et dans ce cas-là, tout est dans le cloud, tout est ouvert avec l'application en JavaScript, donc effectivement, il y a moins de risques à ce que ça t'exécutera même pas une macro sur ton poste.
Donc tu reçois un message d'un inconnu. Tu n'as pas confiance dans les attachements qu'il a mis, tu renvoies le message chez Google qui va faire la sécurité pour toi. Non mais, si finalement ça n'est pas un message de quelqu'un que tu connais et qui doit rester à l'intérieur de l'entreprise, c'est une solution que nous suggérons aux auditeurs.
Ah, mais toute solution qui
moi, je la recommande pas.
Consiste à ne pas ouvrir un fichier avec la suite Office sur un poste Windows est bonne. Après, que tu utilises des Chromebooks, que tu utilises une solution dans le cloud, que tu sois sous Linux, que tu aies Office sur OS X, parce qu'à ma connaissance, Office sur OS X ne supporte pas les macros VBA. Enfin, toute autre solution est bonne.
Si, j'ai un code d'exploit justement pour que j'utilise pour les Mac. Je te le filerai si tu veux. Mais
sur Mac OS X, oui, mais sur iPad, il n'y a pas de problème.
Non, mais à la limite, moi, je poserais la question autrement, c'est est-ce qu'il est normal qu'un document Word dispose de macros qui permettent d'exécuter du code ? Si juste on pouvait supprimer les fonctions d'exécution de code des macros, il n'y aurait plus de problème.
Bah, supprimer les macros entièrement, de toute façon, personne ne s'en sert.
Oh !
Oui.
Bon, écoutez, là, ça commence à troller. De toutes les manières, on peut aussi exécuter du code dans un lecteur PDF. Alors, la problématique n'a pas de fin. Et quant au flash, n'en parlons pas.
Non, mais c'est pour ça que la vigilance, c'est important. Et qu'éventuellement, effectivement, envoyer le fichier, quand on a un doute, à, par exemple, un cert local ou... eh bien, ça aussi, c'est une possibilité.
Il n'y a pas que les macros dans la suite Office qui posent problème. Hein. Vous avez vu le POC là qui a circulé, je crois au début de la semaine ou la fin de la semaine dernière, macro désactivé sur les nouvelles versions d'Office, tu peux démarrer des objets ActiveX et tu démarres ce que tu veux. Vous l'avez pas vu passer celui-là? Il est écrit tu démarres un JavaScript qui te permet de le faire en fait. Le JavaScript va te démarrer par exemple Excel qui va te démarrer un truc derrière. Oui,
il y a eu de la recherche sur justement sur OLE, OLE qui est quand même un truc vieux comme le monde, et il y a des gens qui ont refait de la recherche dessus récemment, et récemment il y a quelques semaines ou quelques mois, et qui se sont mis à retrouver des trucs intéressants, avec pas mal de bulletins de sécurité Microsoft à la clé. Mais effectivement, de toute façon, c'est des formats qui sont trop complexes et complètement non maîtrisés pour juste envoyer 5 lignes de texte. Moi, quand je reçois un mail qui me dit « Veuillez prendre connaissance du document 6 juin de la part de l'école » et que le document 6 juin, c'est un Word de 1 méga avec du clipart qui m'explique qu'il y aura une réunion de parents d'élèves vendredi soir à 18h, j'aurais préféré recevoir un mail en plein texte.
Bien d'accord. C'est bon. Tu veux pas...
Est-ce qu'il y a d'autres axes, selon vous ?
Non, mais là, ton exemple, il est en Suisse.
Mais non, t'imagines pas le nombre de gens qui ont besoin de t'envoyer une information, ils font une capture d'écran, ils font un screenshot, et ensuite ils copient-collent dans un document Word l'image du screenshot, et ils t'envoient le document Word. Enfin, on l'a tous vécu, ça, faut pas se voiler la face.
C'est toujours le cas, hein.
Ouais, bon, en fait, pour répondre plus précisément à la question de Johan, c'est vraiment compliqué de se défendre contre ça. C'est pas, il n'y a pas une seule solution. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un cumul de plein de solutions.
Exactement. Bah, il faut débrancher Internet.
Mais le problème, c'est que. Ouais, mais non, parce que tu es dans le cadre d'un CryptoLocker.
Non, mais t'arrêtes de travailler dans ces cas-là. Tu vois ? Non, tu peux pas. Tu peux... C'est comme de dire d'arrêter de cliquer sur les pièces jointes.
Oui, oui.
Tu peux pas.
Mais non, tu fais une émission de radio pour sensibiliser les gens et leur expliquer les choses. Et ouais, ça contribue à la réduction des risques.
Ça, c'est pas mal, ça.
Ou alors, tu utilises des chats pour te passer les données que tu écris sur un papier ou sur une plaque de marbre.
Tu sais qu'ils ont arrêté les pigeons voyageurs.
Hein. Ah ben, c'est plus une arme de guerre en France.
Non, non.
Il y a aussi une autre solution que t'offre le cloud, puisque on est là pour vendre du cloud, si j'ai bien compris.
Non.
C'est que t'as une historisation, en fait, en temps réel. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que quand t'as des fichiers, ils sont chiffrés, et éventuellement, la seule fonction Windows qui te permet de les récupérer, c'est le système, comment ça s'appelle, le système Volume Information, qui permet de voir les versions précédentes de ton fichier. Et en fait, comme les CryptoLockers sont au courant de ce truc, ils vont aller vider les versions précédentes, et du coup, tu récupères plus ton fichier. Par contre, si tu es sur un système de type ZFS, ou même si tu mets tes fichiers dans Dropbox, un truc à la con, mais tu vas sur le site web de Dropbox, et tes fichiers sont conservés pendant 30 jours, y compris toutes les versions antérieures. Donc, à moins que les CryptoLockers se mettent à jour et se mettent à utiliser l'API pour tout effacer, sinon, à partir du moment où tu gardes un historique de modification sur tes fichiers, si tu es sur du ZFS ou n'importe quel autre système de fichiers historisant, tu peux récupérer tes données. Alors après, en termes de stockage, ça coûte un peu plus.
Mais est-ce que c'est une solution que Madame Michu peut envisager un minimum d'avoir ? Non.
Madame Michu, non, mais les entreprises, oui.
Et quand bien même... T'as le super DSI IT, je sais pas quoi, qui fait le truc qui va bien avec tout ce qui va bien. À un moment ou à un autre, t'as Madame Michu de l'autre côté. Et c'est ta Madame Michu qui va te foutre la merde, en fait.
Oui, mais si elle est dans un environnement professionnel où t'as une journalisation de toutes les activités sur le poste de travail et t'es capable de naviguer dans l'historique des fichiers.
On t'en connaît, toi ?
Oui, mais bon. Je sais pas si mon expérience est applicable.
Non, mais bon.
En dehors de ton employeur.
Non, mais tu vas sur Google Drive, t'édites un document, tu peux revenir à n'importe quelle version, à n'importe quel moment dans le temps. Il est impossible de détruire le document à un point où il n'est pas récupérable dans les 30 jours.
Enfin, il y a déjà 20 ans, ça marchait comme ça sous VMS. Hein.
Merci Hervé, oui, avec le point virgule et le numéro de version à la fin du fichier.
Oui.
C'est vrai que ça marchait comme ça sur le VMS 6.5 que j'avais à l'école.
Tu veux dire qu'en fait, Google Drive, c'est un VMS derrière ?
Est-ce que vous voyez un dernier point à ajouter ?
Non, on n'a pas du tout. En fait, on part du principe aujourd'hui que toutes les infections arrivent par des macros de documents bureautiques parce que c'est très tendance en ce moment. Après, il y a aussi pas mal de macros qui vont aller dropper des scripts PowerShell, donc il y aura peut-être des choses à faire de ce côté-là. Mais
Ça fait quand même plus de 10 ans que c'est à la mode, hein.
bah ça va, ça vient. Là, c'est vrai que c'est très tendance ces derniers temps. Mais l'infection via la navigation sur des sites web reste quand même un vecteur. Alors, soit par des failles logicielles, soit par un bête, je clique et j'exécute parce qu'on m'a proposé une mise à jour de du logiciel machin qui est indispensable pour aller sur tel site. Quoi. Et donc là,
oui, ça marche encore.
Pour être tout ouvrir une porte sur toutes les solutions de whitelisting d'exécutables, de sandbox et tout ce qu'on veut, mais bon.
Ça aussi, c'est une recommandation qu'on pourrait faire, ne jamais mettre à jour quand c'est pas quelque chose qu'on a voulu soi. C'est-à-dire que si on est redirigé sur un site web qui vous dit « Ah tiens, faut mettre ça à jour », surtout ne pas le faire. Parce que dans 99% des cas, c'est un piège.
Tu parles de la mise à jour vers Windows 10 là?
Oui, enfin ça c'est délicat comme conseil parce que sur le fond, l'absence de mise à jour sur les Android, les objets connectés, tout un tas de choses, est le problème de fond. Il y a des problèmes de sécurité qui sont régulièrement corrigés et il y a qu'une minorité de systèmes qui sont mis à jour automatiquement. Donc je pense que de dire aux gens de pas faire les mises à jour, c'est pas possible.
Non, c'est
il faut
pas...
dire aux gens
Alors,
de faire
non,
attention.
Pas...
Lorsqu'on leur propose une mise à jour.
En entreprise, tu fais pas de mise à jour toi-même, normalement. C'est géré par ta DSI. Donc, tu n'as pas à mettre tes logiciels
si tu...
à jour.
Voilà, et si tu te balades sur un site web et qu'on te dit, tiens, faut mettre Flash à jour, non, il faut aller sur le... se dire que, ok, d'accord, alors peut-être que mon composant Flash n'est pas à jour, donc je vais sur le site Adobe. Et je mets Flash à jour parce que j'ai initié de moi-même la mise à jour. Mais je vais surtout pas exécuter le truc qu'on me propose comme ça.
Après,
le
problème de l'exécution, c'est qu'elle n'est pas toujours triviale. Quand tu télécharges un logiciel, je sais pas, sur SourceForge par exemple, et qui vient avec un bundle d'installer qui va télécharger dynamiquement une application à installer en parallèle sur ton poste. Donc tu vas télécharger un logiciel très connu, il te dit voulez-vous bénéficier de l'offre machin, qui est en fait dynamiquement téléchargé depuis Internet en fonction du pays où tu installes le logiciel, de l'heure qu'il est, de ton type de machine et autres, et tu te retrouves à installer un truc que tu connais pas du tout sur ta machine, quoi. Depuis une source qui est légitime, parce que si tu prends FileZilla par exemple, tu es comme un client FTP très connu, tu vas sur SourceForge, tu le télécharges, il y a du crapware qui est ajouté par SourceForge dans l'installeur.
Beaucoup de plateformes de téléchargement rajoutent comme ça du crapware, comme tu dis.
Mais surtout, c'est une chaîne, c'est-à-dire qu'eux-mêmes rajoutent un composant d'installation qui va se connecter à un tiers pour lui demander qu'est-ce qu'il doit installer, qui lui-même va aller peut-être derrière faire une enchère ou je sais pas quoi, en disant tiens, j'ai une machine à Paris qui veut installer un soft dessus. Donc du coup, tu n'as plus aucune maîtrise sur ce qui se passe. Mais dans tous les cas, je rejoins le conseil de Vlad, en entreprise, c'est l'informatique qui gère les updates et qui gère le parc. Après, pour Madame Michu, je pense que de toute façon, on peut donner aucune solution à Madame Michu, puisque... Non mais, c'est son système d'exploitation qui prend ses décisions pour elle.
Oui, c'est clair.
Et Madame Michu, on peut lui dire de faire attention et tout ce qu'on veut, mais enfin, globalement, elle est en configuration par défaut, et donc à partir de là... Si elle a une plateforme qui a des failles connues et qui est très, enfin, qui a des défauts connus et largement documentés et exploités par les pirates, elle peut rien faire.
Je suis d'accord avec ce que dit Vlad. Hein, c'est à la DSI de s'en occuper. Maintenant, la DSI, c'est quand t'as une entreprise qui est quand même assez conséquente. Pour la PME, tu vas la considérer comme Madame Michu parce que la PME. Et là, un mec qui est un peu plus doué que les autres en informatique. Et puis le mec, il va pas centraliser les installations et machin. Donc, malgré tout, on a quand même Madame Michu en entreprise.
Bah, moi, j'ai travaillé avec des PME. Ils font quand même très souvent, ils outsourcent très souvent leur informatique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui vient, c'est l'informaticien. Il gère plus ou moins toutes les boîtes de sa région. Il vient en scooter, il upgrade les serveurs, voilà.
Ouais, d'accord. Mais...
Après, ce gars-là est pas forcément compétent, je suis d'accord avec toi. Il va c'est pas forcément mettre en place du ZFS pour pouvoir faire du time travel sur les
non,
fichiers.
Non, il va être là, il va installer l'antivirus pour tout le monde, il va configurer les mises à jour, Et puis basta, ça n'empêchera pas que il sera pas là pour sensibiliser les gens et leur dire attention, faites plus, c'est clair.
On a oublié un tout petit point sur la sensibilisation, c'est quand même aujourd'hui Office, Word, Excel, etc. Quand tu ouvres une pièce jointe venant d'un mail ou d'un webmail, tu es dans un espèce de pseudo sandbox avec les macros par exemple désactivés. Il faut que toi-même tu ailles cliquer sur un petit bouton jaune qui te dit attention, ne clique pas là, ça peut exécuter des virus pour activer les macros. Je crois que tu as même un deuxième niveau de validation pour activer complètement les macros. Donc il faut quand même y aller pour exécuter une macro sur un Word récupéré sur Internet.
Une fois que l'utilisateur a décidé qu'il voulait le fichier, il est prêt à cliquer 50 fois, à rentrer des captcha, à rentrer des mots de passe pour déchiffrer, enfin des archives protégées par un mot de passe. Enfin, tu vois, c'est une fois que l'utilisateur a décidé.
Là, tu lui coupes les mains. Enfin, d'ailleurs,
non,
je,
c'est la science.
Je me demande si ça peut pas être considéré presque comme une faute d'aller à un tel point. Parce que effectivement, ça peut être vachement intéressant de faire de la sensibilisation. Et si tu fais de la sensibilisation et que tu te retrouves quand même avec des utilisateurs qui vont cliquer 4 fois sur un truc alors qu'on leur a recommandé de ne pas le faire, là, tu peux plus rien faire. Enfin,
je pense qu'il faut rendre le truc ludique. Tu vas faire de la sensibilisation et essayer de faire des concours qui mettent en valeur les gens qui n'ont pas cliqué.
Compliqué d'un point de vue droit du travail, relations avec les représentants du personnel et autres.
Non, mais justement, là, tu stigmatises pas, si tu veux. L'idée, c'est de dire...
Je propose une autre émission sur le sujet.
Ah ouais, c'est vrai que c'est un sujet sympathique, ça.
Ouais, on a des petits trucs bien rigolos à raconter sur des sensibles qu'on a pu faire à droite et à gauche, avec des retours intéressants. Ouais, je dis ça, je dis rien.
Absolument.
Bon, eh bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous disons à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Au revoir.